Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Hola, hola, bienvenue à tous et toutes. Vous nous rejoignez pour un nouveau Canu Info du jeudi. Nous sommes le jeudi 24 septembre 2020. On espère que vous allez bien. Nous prenons donc la suite de Grains de Sable. On ne sait pas si Tout Attraque sera là après nous, mais on l'espère pour vous ayez une nouvelle émission. On va parler de plein de choses ce soir, mais assez concentré dans les sujets. On va d'abord parler de migrants avec Laurent.
Du coup, ça fait la suite de l'émission précédente, puisqu'ils ont parlé pas mal de ça aussi avec SOS Méditerranée.
Il y a tellement à dire en même temps que, de toute façon, on pourrait faire plusieurs émissions. Nous parlerons de médias et de presse d'abord ailleurs, puisqu'ensuite nous irons ici. Hein, c'est-à-dire qu'on va d'abord parler des galères des autres ailleurs, et puis ensuite on va voir ce qui se passe par chez nous.
Mais des galères qui vont commencer à ressembler à celles qu'on a dans certains pays.
Alors on va montrer du très très moche à l'international, mais c'est vrai que voilà, les nouvelles ne sont pas très bonnes ici. On va parler de syndicalistes, de prison, de taggeurs. Nous irons certainement au Rwanda, et puis ensuite on finira un petit peu encore avec de la presse, si vous le voulez bien, et avec de la presse amie aussi.
Du coup, c'est moi qui ouvre cette émission.
Tout à fait.
Avec une petite info, des quelques petites infos autour des libertés et de l'absence de liberté. Et donc, on va parler des migrations et des migrants. Avec la première info du jour, là, celle qui est tombée hier sur donc une info locale pour le coup, avec Pierre-Alain Manoni, donc qui était jugé hier devant la cour d'appel de Lyon. Alors, c'est un enseignant-chercheur qui habite Nice, qui avait été arrêté en octobre 2016. Alors il a fait un truc super grave, hein. C'était dans la vallée de la Roya et il avait porté assistance à trois femmes. Le problème, c'est que ces femmes, elles étaient d'origine érythréenne. Et ça, c'est très 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 mal vu d'aider les gens qui ne sont pas français. Et c'est ce que laisse entendre, ce que va dire d'ailleurs. On le croit, on le pense et on est triste d'ailleurs, la justice. Alors, cet homme, il avait pris donc ces trois migrantes dans son véhicule. Il les avait, il s'est fait arrêter bêtement. Il s'est fait arrêter à un péage. Alors il comptait les amener parce que dans un local SNCF dans le coin là qui sert d'abri, qui est tenu par des que les habitants géraient et aidaient les migrants à s'abriter là-bas et à survivre le temps qu'ils poursuivent leur route. Alors cet acte, qui est finalement un acte humanitaire, semble très peu apprécié ni de la justice ni de l'État. La justice étant quand même pas mal le bras armé de l'État, notamment à travers les lois que la justice fait appliquer. Donc Pierre-Alain Manoni est poursuivi. Alors le vrai truc, hein, c'est aide à la circulation d'étrangers en situation irrégulière. Parce que si vous étiez l'émir du Qatar ou quelqu'un comme ça à voyager, c'est pas grave. Hein, lui il est riche, il a le droit. Par contre là, aider comme ça des étrangers pauvres, c'est très très mal vu et très illégal. Donc il avait d'abord été relaxé à Nice en 2017, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Ensuite la cour d'appel l'avait condamné cette fois-ci quelques mois plus tard, et la cour de cassation ensuite avait annulé sa peine. Et là on est au bout du truc avec la cour d'appel. On va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, ça semble plutôt mal parti, hein, puisque une peine de 5 mois de prison avec sursis a été requise contre Pierre-Alain Manoni pour avoir porté assistance à ces trois femmes. Bon, ben on va attendre le 28 octobre pour avoir la réponse. En tout cas, on notera la présence de militants et militantes qui sont venus le soutenir. Il y avait à peu près 200 personnes devant le palais de justice hier. On reste dans les migrants et on va reparler du Alan Kurdi, donc bateau affrété, je crois, par CI, une ONG allemande. Donc la bonne nouvelle, c'est que les autorités italiennes ont finalement répondu présentes pour accueillir le navire humanitaire qui a à son bord 125 migrants. Donc il a accosté aujourd'hui dans le port italien d'Arbatax, c'est en Sardaigne très exactement. Mais ça a été long, très compliqué, il a fallu attendre le milieu de la journée pour que le ministère italien daigne répondre à travers un communiqué autorisant ces personnes à débarquer. Après les 80%, c'est toujours le communiqué du ministère italien de l'intérieur, des 80% des migrants à l'intérieur du bateau vont être transférés dans d'autres pays d'Europe. Alors dans les péripéties, hein, ça fait 5 jours hein, qu'ils attendaient une réponse. L'Italie a hier soir, alors c'était hier soir dans la nuit, presque à minuit, presque aujourd'hui du coup, hein, très tôt ce matin, entre hier soir très tard et aujourd'hui très tôt, l'Italie a finalement contacté CIES, donc l'ONG, pour dire qu'ils allaient accueillir le navire, 5 jours après, en attente pour ces pauvres migrants. Ce qu'on notera quand même, c'est que le gouvernement avait demandé à l'Italie d'accueillir ce Alan Kurdi, ce bateau Alan Kurdi. Pourquoi ? Parce que la France, à travers le gouvernement français, ne voulait pas accueillir ces migrants. C'est la classe internationale, bien évidemment, comme d'habitude, de la part de cet État français, aussi finalement raciste que les autres, et qui est donneur de leçons en même temps. Ça, c'est la particularité du gouvernement français. C'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a eu droit de jouer ce rôle de petit raciste xénophobe, anti-migrant, et surtout qui ne voulait pas secourir ces personnes en difficulté sur ce navire. Et il est bien content, le petit Gabriel Attal, puisque le navire qui a failli, hein, qui a accosté à Marseille, puisqu'il allait direction Marseille, il n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au bout, puisque l'Italie a finalement accueilli le bateau. Alors on reste dans les migrants, du coup, dans l'actualité, puisque hier, mercredi 23 septembre, la présidente de la Commission européenne a dévoilé sa proposition visant à instaurer un nouveau système de gestion des demandes d'asile au sein de l'Union européenne. Alors elle a été plutôt rapide, hein, la présidente, qui s'appelle Ursula von der Leyen, puisque c'était le 16 septembre, lors de son discours sur l'état de l'Union, qu'elle avait parlé d'abolir notamment une partie du règlement de Dublin. Et bien, une semaine après, ça y est, elle propose quelque chose. Enfin, elle, la Commission européenne propose quelque chose. Vous savez, c'est la partie non élue du pouvoir européen. Alors, le mécanisme qui est condamné ouvertement et qui, en fait, on va voir que c'est quand même un peu biaisé, voire très biaisé, c'est justement ce fameux truc de Dublin où, quand un étranger, un migrant, on va dire, pauvre, hein, pas l'émir du Qatar, un migrant arrive dans un pays de l'Union européenne, c'est là où il a posé le pied en premier, qu'il est obligé de faire toutes ses démarches jusqu'au bout. Hein. Et notamment sa demande d'asile. Même s'il a envie d'aller en Angleterre, même s'il a envie d'aller en Suède, c'est pas possible. S'il a posé le pied en premier à Malte, il est coincé à Malte. Alors ça va disparaître en partie, puisque c'est à minima réformé. Alors je vais rentrer un peu dans le détail des réformes. On attendait tous une mise en place d'un système de répartition des demandeurs d'asile. Et ça, bon, ça y sera pas dans le système, puisque la Commission n'est pas allée sur ce terrain-là. La Commission a proposé un système de solidarité obligatoire un peu différent, très différent, qui permet aux États membres de choisir sous quelle forme ils vont participer. Alors bien sûr, on peut participer en accueillant un migrant, mais aussi on peut participer en organisant les rapatriements de migrants, les expulsions de migrants, ou en donnant de l'argent. C'est quand même pas mal comme conseil. Si vous voulez participer, donc tout le monde sera obligé de participer à la gestion des migrants, soit vous accueillez, soit vous expulsez, soit vous donnez un peu de thunes. Bon, ça, c'est glauque à mourir, hein, ce choix dit pragmatique, hein, de la Commission européenne. Alors, faut dire qu'il y a le bloc de Visegrad, on rappelle la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, les Slovaquies, grosso modo les pays les plus égoïstes et les plus racistes de l'Union européenne, qui font blocage. Du coup, la commission cherche un truc entre deux pour essayer, parce qu'il faut un compromis qui va être en cours de négociation, donc à partir d'aujourd'hui ou à partir d'hier, il faut trouver un compromis entre les 27 États membres pour arriver à une proposition. Voilà, on en est là. Alors, mais tout ça, avec ce nouveau texte, on a de toute façon la même logique xénophobe, la même logique anti-migrants. La politique européenne n'a pas changé, puisque les gouvernants européens n'ont pas changé, puisque les élus européens n'ont pas changé. Inévitablement, et d'ailleurs, souvent, tout le monde critique soit l'Union européenne, soit l'attitude des pays. C'est le même genre de personnages politiques qui sont élus aussi bien au sein des pays que dans la Commission européenne. Bien évidemment, on a majoritairement des libéraux, et aussi pas mal de racistes et de xénophobes dans tout ça. Voilà. Donc je sais plus ce que j'allais dire. Alors, la commission va essayer, en fait, avant tout, à travers cette nouvelle forme de règlement, d'accélérer les dispositifs d'expulsion. Et c'est ça qui est le but. Alors, faut savoir que il y a un peu d'immigration d'arrivées comme ça de migrants chaque année en Europe. Le chiffre donné par l'Union européenne, c'est à peu près, pour l'année dernière, 2019, 491 200 personnes sont arrivées dans l'Union européenne. Ont reçu un ordre d'expulsion de l'Union européenne. Ils ne sont pas arrivés. Il y en a beaucoup moins qui sont arrivés. Il y a 491 200 000 ont reçu une note d'expulsion dégagée. Seulement 29% ont pu être envoyés dans leur pays. Et ça énerve la Commission européenne, ça énerve les technocrates européens, ça énerve tous les racistes et les fachos. Et donc, du coup, il faut changer le dispositif. Et c'est une partie de l'objectif, c'est d'augmenter ces expulsions de ces indésirables, puisque c'est comme ça que l'Union européenne les voit, pas du tout comme des êtres humains, des gens qui ont souffert, tout ça, pas du tout, on n'est pas là-dedans du tout. Donc voilà, donc finalement, les principales innovations de ce nouveau pacte, l'abandon donc des quotas obligatoires, on ne pensait pas que ça allait arriver, et puis voilà, l'idée qu'il y a une participation possible en expulsant ces migrants. On imagine bien que des pays qui en veulent pas, comme la Hongrie, tout ça, vont jeter dessus pour participer à ces expulsions. Voilà d'où on en est un petit peu de ce qui est proposé dans ce projet de la part de la Commission européenne, porté donc par sa présidente.
Alors, on va démarrer une page sur les médias et la presse, et on va commencer par ce qui se passe un petit peu ailleurs. Alors, c'est très sélectif, parce qu'on peut pas dire que la presse, les journalistes vivent bien leur métier un peu partout dans le monde. Donc, c'est très sélectif. J'ai choisi quelques endroits. On pourrait partir, encore une fois, en Biélorussie, hein, puisque vous savez qu'il y a toujours des manifestations contre Monsieur Loukachenko. Peut-être que vous avez suivi. Donc, il y a des manifestations. Il y a un certain nombre de journalistes étrangers qui ont perdu leurs accréditations. Et en plus de ça, leur expulsion est demandée, voire effective. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Alors, il paraît que ces journalistes étrangers pourraient participer à un coup d'État contre M. Loukachenko. Hein, c'est bien connu, les journalistes de CNN organisent des coups d'État pour virer des autocrates. Ouais. Voilà. Non, mais si, c'est connu. Il y a déjà cette situation. Ce qui fait qu'évidemment, le pays il y a une tentative d'isoler hein, quand même les manifestants. On en a parlé la semaine dernière. Et aussi donc d'isoler la presse locale, nationale, puisque les journalistes subissent arrestation, intimidation, tabassage, molestation, enfin molestage, on dit plutôt. L'association biélorusse deux journalistes a recensé près de 300 actions des autorités contre des journalistes. Alors, il y a, comme je disais au début, de l'intimidation. Hein, ça, c'est en manif directement où on peut aller voir un journaliste et lui dire qu'est-ce que tu fais là. Il y a la confiscation du matériel, toujours sur la manifestation, ou avant ou après, hein, bien évidemment. Ça marche aussi, hein, très bien. Et puis, il y a l'emprisonnement et puis après, le tabassage. C'est des situations qui sont vécues, qui sont nombreuses. Je vais vous donner quelques exemples pour aujourd'hui. On a le cas de ce journaliste de Grodno Life qui a été arrêté avec sa femme le 11 août dernier. Il s'appelle Ruslan Kulevich. Lui, il a fait 3 jours de prison, pas de soins, pas de nourriture. 5 jours d'hôpital à la sortie, hein, c'est super sympa. Donc lui, il a recommencé à travailler, mais c'est vrai que c'est des journalistes qui sont touchés et qui, malgré toute leur vaillance, commencent un peu à craindre pour leur vie et la vie de leur famille. Alors, ce que lui a raconté, c'est qu'il était dans un magasin où il s'était réfugié pendant une manifestation, et il y a des hommes sans uniforme, habillés en noir, qui sont arrivés, qui l'ont chopé et qui donc l'ont embarqué pour l'arrêter. Cette situation, on la retrouve assez fréquemment, de ces hommes sans uniforme, cagoulés et en noir. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment. On a le cas d'autres journalistes qui ont fait de la détention, comme Katarina Andreeva, qui elle est journaliste à Belsat TV. Elle continue encore aussi, hein, à vouloir pratiquer son métier. C'est presque une mission quand on la lit un petit peu, hein, d'aller donner la parole de la rue, de ce qui se passe, de rapporter contre Loukachenko, hein, très clairement. Donc elle a fait 4 jours de détention. Et puis il y a Natalia Lubnovskaya, excusez-moi, qui elle travaille pour Natchaniva. Elle a fait 38 jours d'hôpital. Alors elle retournait sur en reportage, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est gagné, elle est marquée, elle a une blessure, elle s'est pris une balle de caoutchouc, hein, qui donc là aussi était tirée par des hommes cachés, camouflés, qui se sont pas montrés comme tout de suite policiers, ce qui est pas mieux, hein, de se montrer policier, de tirer sur une femme journaliste, c'est pas meilleur. Mais bon, on a quand même quelque chose qui se reproduit. Et puis, il y a ce qui a lancé un mouvement en Biélorussie, le cas d'Alexander Vazukovic et Doutlas Isdrin, qui sont photoreporters. Alors eux, ils ont vu débarquer plusieurs hommes en noir, cagoulés, qui sont venus prendre leur matériel et qui les ont embarqués en détention. Ils se sont fait embarquer quand même dans un bar, hein. Ils ont donc pris 11 jours de prison ferme pour participation à un rassemblement non autorisé. Je rappelle, ils étaient dans un bar. Donc, voilà. Et puis, en plus de ça, le procès était très vite. 3 jours, cette affaire s'était bouclée. Hop, 11 jours de prison pour des journalistes. Et à partir de là, ça a soulevé quand même quelque chose. Parce que, quand même, ça fait des mois que ça dure, cette affaire. Ça commence à bien faire. Et la répression avait déjà commencé avant même que Loukachenko se nomme lui-même grand gagnant de cette élection. Il y a donc eu en solidarité le 17 septembre un travail qui a parcouru les médias, où les médias indépendants ont publié des articles noirs et blancs avec un appareil photo barré et sur lequel il est écrit « Ici, on aurait pu être une photo ». Donc c'est aussi montrer que voilà, il y a des gens qui sont arrêtés, que le travail ne peut pas se faire et que donc là, la photo est manquante, mais que le texte demain pourra aussi être manquant. Donc voilà, la Biélorussie, c'est pas l'éclate, mais on pourrait partir aussi au Cameroun, où vous savez qu'il y a des manifestations pour le départ du président Paul Biya. Vous avez peut-être suivi.
Un grand dictateur a mis des gouvernants français. Il fait partie de la France-Afrique, soutenu, tout ça.
Bah, du coup, ça va quand même avec, puisque lui aussi, il fait de la répression contre les journalistes. Pas que, évidemment. Oui. Je vais pas le redire à chaque fois, mais quand des journalistes sont blessés, que c'est des manifestants et des manifestantes qui le sont aussi, bien évidemment. Alors là, c'est RFI qui raconte que l'un de ces journalistes a été interpellé pendant qu'il travaillait dans les rues de Yaoundé. Mais d'autres rapportent aussi, hein. Alors, on a des médias internationaux et puis on a les médias nationaux qui ont connu des arrestations. Alors, par exemple, il y a le cas de la Nouvelle Expression. Et là, il y a eu 2 interpellations. Et le caméraman Rodrik Ngassi raconte avoir été déshabillé, agressé physiquement, auditionné pendant de longues heures. Voilà, donc le Cameroun vit une crise dans la rue, mais il vit aussi une crise de répression, hein, de ses journalistes. C'est, voilà. On pourrait aller en Chine. Hein, en Chine,
Ouais, facile la Chine.
Facile. Sauf que vous savez qu'il y a toujours, il y a toujours un gros problème aussi avec la Chine, c'est que la Chine a besoin qu'on parle d'elle, donc a besoin de représentants de la presse internationale, et en même temps passe son temps à refuser à cette presse des accréditations, voire elle en est de partir. Et là, c'est le cas de deux Australiens qui se sont barrés, fissa. Ça se tend entre la Chine et l'Australie sur cette question du droit de presse sur le territoire chinois. Donc, on avait dit à ses correspondants à Pékin qu'il fallait peut-être mieux partir, que ça sentait pas bon. Et puis, il y a eu la visite de policiers chinois au domicile, qu'on commençait à inquiéter. Et là, on est venu les interroger pour des affaires de sécurité nationale. Là, on retrouve aussi des choses assez habituelles dans les dictatures. Et donc, sur le coup, ils ne pouvaient pas quitter le pays. Donc là, l'idée, c'était quand même aussi, au moment de vite s'en aller, pour pas que ça se reproduise quand même des choses assez moches que la Chine pratique quand même avec les représentants de la presse étrangère. Il faut rappeler que la Chine n'est pas très contente du traitement sur le coronavirus et la Covid-19 par la presse internationale, saboter un certain nombre d'articles. Et puis, on n'aime pas bien parler des Ouïghours aussi. Donc ça fait tout plein de raisons pour que la presse internationale soit mal accueillie. Mais j'aimerais aussi revenir sur d'autres moments aussi où la presse elle est importante, même quand elle se fait arrêter. C'était à Minneapolis, ça date, c'était au mois de mai dernier, mais c'est symptomatique de ce qui peut se passer aussi aux États-Unis. Il y a des manifestations. Vous savez, après la mort de George Floyd, on est à Minneapolis et il y a Omar Jiménez, journaliste, il est noir et latinos, se fait arrêter en direct devant les caméras de CNN. Vous avez peut-être entendu parler cette affaire. Ça a beaucoup choqué aux États-Unis d'Amérique, déjà parce que c'est un journaliste qui se faisait arrêter sans raison, alors qu'il fait son travail, qu'il est sur le terrain et il est en direct. Ce qui est dingue quand même, c'est qu'il est en direct et qu'il dit la personne en plateau dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous l'arrêtez, pas de réponse. Et le caméraman dit ça va être mon tour. Et effectivement, la police vient chercher le caméraman et donc la caméra qui est au sol continue à filmer quand même une arrestation qui n'a pas de sens. Alors ils ont été tous les deux relâchés, le gouverneur du Minnesota. Monsieur Walz a présenté ses excuses, mais enfin, ce qui était fait était quand même fait. Et ça a scandalisé. Ce qui a scandalisé aussi, c'est une deuxième chose, c'est pas juste que Omar Jiménez est journaliste. C'est que, je vous l'ai dit, il est pas blanc, mais que son collègue Josh Campbell, qui lui est blanc, a pas eu de soucis.
Ah bah, surprenant, dis donc.
Donc il y a quand même des gens qui se disent, oui, il y a un racisme de la police qui là est intervenu pour arrêter un manifestant dans le cadre d'une manifestation pour les droits des Noirs aux États-Unis d'Amérique. Pour la justice et qui se fait arrêter comme si jamais finalement soit il vaut rien en tant que journaliste, soit finalement c'était peut-être pas un vrai journaliste. Allez savoir ce qui se passe dans la tête des flics, mais en tout cas un noir est un noir a priori chez les racistes. Donc on pourrait partir après dans d'autres pays, on pourrait aller par exemple au Maroc. Je laisse un petit blanc. Le Maroc, on en parle moins. Vous savez qu'il y a Mohamed VI qui était censé révolutionner le Maroc. Il était censé être progressiste.
Ouais, personne n'y a cru vraiment, mais...
Ah, il y en a qui y croyaient. Bon, en ce moment, il est accusé de vouloir bâillonner la presse au Maroc, de s'attaquer à tous ceux et toutes celles qui s'intéressent particulièrement à la corruption, à la disparition de certaines richesses, à l'injustice. Ça semble ne pas beaucoup plaire à Monsieur Leroy. Donc, il y a un certain nombre de journalistes qui subissent. Et puis, il y a ce cas de Omar Radi. Le procès, était mardi 22, débuté mardi, là. Donc, il est devant la justice pour tout un tas d'affaires, dont espionnage et viol. Je vais y revenir sur cette histoire de viol. Donc, le 26 juin 2020, Omar Radi est auditionné par la police. Il va y avoir 12 séances d'interrogatoire, et j'ai appris, certaines allant jusqu'à 9 heures d'affilée, quand même, donc un grand moment pour lui. Il a été arrêté le 29 juillet. Et puis, là, on se demande, mais pourquoi ? Donc, parce que pour espionnage, quand même. Alors, ce qui est passé, c'est que Omar Radi, il s'intéresse à l'utilisation des terres, à l'expropriation des terrains et des terres agricoles, et comment les gens pourraient se les réapproprier. Il travaille aussi avec Human Rights Watch, ça plaît pas trop, sur justement ces problématiques pour en faire vraiment une analyse plus profonde, différente de son travail journalistique. Et puis c'est vrai qu'il est en affaires aussi avec d'autres sociétés, ça le regarde, il fait bien ce qu'il veut. Et puis il a discuté avec un diplomate des Pays-Bas, pays aussi connu pour... Non, parce que je vous aurais dit, il aurait discuté avec le Mossad, vous auriez dit, oulala, ça y est, ils sont partis dans un trip complètement barjot, antisémite. Non, 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 pas du tout. Donc il a discuté avec un diplomate des Pays-Bas, et tout ça mélangé fait qu'Omar Radi, aujourd'hui, se retrouve avec plusieurs accusations. Ce qui est très bizarre, c'est que on a un tribunal qui a décidé de réunir tout plein d'accusations en même temps, donc cette affaire de viol. Donc, il avait une affaire d'ivresse publique manifeste, hein, quand même, puisqu'il se serait battu et était ivre sur la voie publique suite à une confrontation avec un journaliste de Chouf TV. Chouf TV, on va y revenir, c'est un sale média qui est accusé de ne relayer que la parole de l'État marocain. Donc il y a des caméras, il y a tout ça. Il se retrouve donc face à ce caméraman de Chouf TV avec son camarade. A priori, bon, ça s'embrouille. Enfin, toujours est-il que c'est quand même 6 mois de prison, hein, ce genre de choses. Hein, au Maroc, ça rigole pas. Bon, comme je vous le disais, il a travaillé avec des structures étrangères. Donc il y a des transferts d'argent. Il y a de la banque, il y a de l'espèce, hein, qui arrive à un moment, et on l'accuserait de ne pas payer ses impôts. Ce qui est peut-être vrai. Omar Radi est peut-être un bon journaliste sur la justice, sur l'expropriation des terres, mais peut-être qu'après tout, il ne veut pas payer ses impôts. Je ne sais pas. Et puis, il y a cette affaire de viol. Donc, c'est une femme, hein, qui travaille pour le desk, là où il travaille aussi, qui a porté plainte pour viol, agression, attentat à la pudeur et violence. Ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est que si ça se trouve, Omar Radi, c'est un violeur.
Oui,
mais comme on va
mais
le noyer
tout mélangé,
dans une affaire,
tout le monde doute.
Tout le monde doute. Et ce qui est très mal, parce qu'on ne devrait pas avoir à douter d'une femme qui vient porter plainte. Le problème, c'est que comme l'État marocain a l'habitude de ce genre de pratique, ça noie le poisson. Donc ça peut laisser effectivement à des hommes agresseurs et violeurs la possibilité de dire « mais non, mais regardez, je suis attaqué surtout ». Donc,
mais en même temps, rien ne dit que ce n'est pas de la manipulation de l'État.
Voilà, mais le problème, c'est qu'on ne devrait pas avoir des plaintes mélangées pour justement donner justice. Exactement. À une femme. Si effectivement, elle porte plainte pour viol, il faudrait pouvoir l'entendre correctement. Puisqu'il y a tout un tas, hein, de cas, hein, depuis que Mohamed Thi est là, de journalistes qui sont attaqués, et qui sont attaqués dans leur vie privée. C'est ce qu'a subi Omar Radi, puisque Human Rights Watch a été cherché dans la presse de ces journalistes qui sont appelés des slander médias par un groupement de journalistes au Maroc. Donc on retrouve Chouf TV, Barlam et le 360 qui sont accusés de n'être que la voix de l'État marocain et qui ont dénoncé, hein, au mois de juillet ces médias, puisque Human Rights Watch a compté le nombre d'articles qui ont attaqué Omar Radi et sur sa vie personnelle. C'est-à-dire que derrière, c'est plus que des torchons. Hein. Mais les gens sont allés chercher très loin dans l'espionnage quand même de sa vie privée pour raconter des choses. Et ça, c'est ce qui s'est arrivé à une femme journaliste, elle s'appelle Adjar Resoumi. C'était l'année dernière, en septembre 2019, il y a un an. Elle a été condamnée à 1 an de prison pour avortement et relations sexuelles hors mariage. Il faut savoir que Adjar Resoumi, elle a été examinée dans le cas d'un examen gynécologique sans son consentement pour soi-disant arriver à prouver qu'elle s'était fait avorter. Donc l'État marocain est capable de choses absolument horribles ces dernières années, et les choses ne s'améliorent franchement pas. Voilà, la question est effectivement de savoir si Omar Radi pourrait être jugé pour viol d'une manière différente et séparé de ses autres procès. Ce serait plutôt intelligent, on y verra un peu plus clair. On pourrait partir maintenant en Algérie. Alors, il y a le cas de, vous savez, de Khaled Ranini, qui est soutenu au niveau international, et en particulier par Reporters sans frontières, qui a donc lancé une campagne de solidarité en sa faveur pour le faire libérer. RSF est donc en accusation, c'est le président algérien qui a déclaré que RSF, Reporters sans frontières, je vous rappelle, voulait déstabiliser l'Algérie.
Oui, à eux tout seuls.
Bah, c'est tout connu. Non, avec l'ambassadeur des Pays-Bas.
Ah oui.
Et puis, enfin, tu vois, et CNN. Bon. Donc, ça pose quand même un petit problème. Voilà, alors en plus, le président, là, il remonte jusqu'à Robert Ménard.
Pourquoi Robert Ménard?
Parce qu'il fait partie des fondateurs de Reporters sans frontières. Depuis 2008, il n'y est plus. Hein.
Voilà, maintenant, c'est juste un petit facho qui dirige une ville. Hein. C'est plus du tout quelqu'un qui bosse pour la liberté de la presse.
Mais il a. M. Déboule a expliqué qu'il était inadmissible de nommer un fils de colon qui tente à chaque fois de donner des leçons aux Algériens, d'où l'importance d'enquêter sur les fondateurs de ces organisations ainsi que sur les modalités de leur financement. Voilà.
Oui, du coup, tu remontes sur le président d'avant, Ménard, pour attaquer la structure RSF. Oui, c'est pas mal.
Alors, je vous rappelle que Raled Drareni, il a quand même pris 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Bon, il y a ça. Hein. Et puis, à côté de ça, on a en Algérie M6 qui ne peut plus travailler. Alors, c'est marrant. M6 s'est donc accusé d'avoir diffusé un reportage à charge contre l'Algérie. C'est, vous savez, c'est ces reportages du dimanche. Et donc là, c'est des reportages sur le Irak. Donc les manifestations en Algérie. Et donc là, on accuse les équipes de M6 de ne pas avoir eu des accréditations. Alors, globalement, non. D'abord... on a un gouvernement algérien qui n'est pas content, puisque ça serait des témoignages insipides, je cite, hein, des clichés réducteurs, une somme d'anecdotes sans profondeur. Donc là, le reportage suivait 3 personnes sur aussi tous ces mouvements, et voilà, c'est on critique pas, mais enfin, en tout cas, cette critique vue en particulier par le ministère de la Communication a amené l'État algérien à penser que ils avaient certainement pas eu les bonnes accréditations au bon moment pour faire ce reportage. Alors M6 de son côté assure qu'il y a bien eu des équipes avec des autorisations de tournage, que tout était délivré. Alors en plus qu'à chaque fois ils ont réussi à les faire prolonger. C'est très intéressant. Alors on a eu une réaction des autorités de notre beau pays, la France, et que la France réaffirme son attachement à la liberté de la presse. Vous le mettez dans la tête, hein, ça, pour après. Donc à la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt au débat public partout dans le monde. La liberté d'informer est un droit fondamental qui doit être protégé, c'est ce qu'a déclaré...
Sauf en France. Pardon.
Ah, tu y viens
juste. J'ai spoilé.
Ce qu'a déclaré donc le ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc c'est une manière de virer à la chinoise des reporters de M6 pour qu'ils ne reviennent pas. Alors, évidemment, je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment réagit la presse? Alors, moi, j'ai trouvé des presses très, très, très libres hein, sur Internet. La presse en ligne. Sur Algérie360.com. Le 23 septembre, on se fait la gloire d'un documentaire qui s'appelle Algérie secrète, une série documentaire découverte sur l'Algérie profonde. Même chose sur elmoujahidi.com du 23 septembre, hein, donc de cette semaine. Un regard médiatique qui fait du bien, sans connotation politique ou idéologique, nous expliquons sur ce site internet. C'est une manière de répondre à M6, hein, l'air de rien. À chaque fois, on nous explique que, en fait, c'est mieux que ce qui fait la réalité sur M6, puisque les 2 premiers épisodes diffusés chaque dimanche ont présenté l'Algérie sous un regard neutre, loin des clichés, et sans connotation politique ou idéologique. Ça, c'est sur Algérie360.com. Donc, on a ces reportages qui arrivent et qui permettent de tenter de camoufler qu'il y a plein de problèmes, quand même, en Algérie. Nous avions envie de vous parler de ce qui se passe ici. Toi, il me semble que ça t'a marqué un petit peu les difficultés que rencontrent les journalistes en France et les dernières décisions de l'État français sur les mouvements des journalistes en manifestation en particulier.
Oui, alors ça fait bouger, il y a même un recours au Conseil d'État hein, qui est en cours. Alors c'est contre le nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Donc ce schéma national du maintien de l'ordre, c'est l'acronyme SNMO. C'est le nom officiel donné aux dernières mesures présentées par le ministre de l'Intérieur et qui sont des mesures essentiellement répressives, qui a été présentée le 17 septembre. Ça définit grosso modo la stratégie sécuritaire et répressive lors des manifestations sur la voie publique. Alors, c'est comme d'habitude, il noie le poisson, ce texte. Il commence tranquillement, alors c'est par reconnaître, je cite, que l'exercice de la liberté d'expression et de communication dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions est une condition première de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Alors tu dis, ouais, ça commence comme ça, c'est très bien, et ensuite, eh ben, c'était juste une petite intro pour noyer le poisson, puisque d'après ce nouveau schéma national du maintien de l'ordre, il y a une disposition, il y a pas mal de dispositions. La première, c'est que pour avoir droit d'être présent en tant que journaliste, il va falloir montrer une carte de presse. Ça, c'est le truc qui est sorti par tout le monde. Il y a une quarantaine de sociétés de journalistes qui ont publié il y a quelques jours un communiqué demandant au ministre de l'Intérieur, je vous rappelle que c'est un ministre qui n'émarge pas au Rassemblement National, contrairement aux idées qu'il propage, Gérard Darmanin, de corriger ce texte qui porte atteinte à la liberté d'informer. Parce qu'on rappelle que la majorité des journalistes n'ont pas de carte de presse. Et oui, ils sont souvent que pigistes. Et pigistes, vous n'avez pas droit à la carte de presse.
Journaliste, t'es même pas obligé d'en avoir une.
Alors,
tu peux pratiquer le journalisme sans carte de presse. Ce n'est pas une obligation. Ça te permet d'avoir des accréditations plus facilement.
Ouais. Et de toute façon, c'est pas obligatoire pour travailler dans la presse d'avoir cette carte de presse, effectivement. Et encore moins pour couvrir des événements qui ont lieu sur l'espace public. Donc voilà. Ce constat est partagé. Donc là, c'est les sociétés de journalistes qui sont montées au créneau tout de suite. C'est très corporatiste, bien évidemment. Mais c'est aussi partagé par des ONG, notamment Reporters sans frontières, qui rappellent aussi que la profession, de toute façon, s'est précarisée et que les vrais journalistes salariés d'un journal, c'est plutôt en voie de disparition, quoi qu'il arrive. Donc il y a de moins en moins de gens, de journalistes qui ont des cartes de presse, déjà. Même si c'est pas le combat principal. Voilà. Autre disposition très problématique, de cette nouvelle, je cite, schéma national du maintien de l'ordre. Donc, l'obligation faite aux journalistes ainsi qu'aux observateurs d'obtempérer aux injonctions des représentants des forces de l'ordre en se positionnant en dehors des manifestants appelés à se disperser. Donc, ce schéma national du maintien de l'ordre poursuit en précisant que, je cite, le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes et des membres des associations. Et on sait que c'est pendant ces moments-là que les violences policières explosent. Donc, on dit aux journalistes, vous n'avez plus le droit d'être là, aux membres d'ONG, vous n'avez plus le droit d'être là. Si vous êtes là, vous êtes considérés comme des méchants et vous pouvez subir les foudres. Des forces de répression. Alors c'est une décision qui est un peu difficile à défendre depuis. Gérard Darmanin est invité hier sur France Inter et alors il a dit non mais attendez, c'est pas du tout ça, il y a un malentendu. Le texte pourtant on le lit, lui dit il y a un malentendu. On n'a jamais demandé, je cite monsieur Darmanin, on n'a jamais demandé une carte de presse pour être journaliste sur une manifestation, bien évidemment. Je suis bien conscient qu'il y a des journalistes qui n'ont pas de carte de presse. Par ailleurs, ils ont le droit de rester dans la manifestation, même s'il y a une question de sécurité, lorsque les manifestations, et voire les manifestants, deviennent violents. Bizarrement, il dit exactement le contraire de ce qu'il y a dans le texte. Donc là, il essaye de noyer le journaliste de France Inter, les auditeurs de France Inter. Mais bon, voilà, en attendant, ces dispositions sont bien présentes. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elles seront appliquées dans les prochaines mobilisations ? Alors, il y a eu, donc, je vous disais, les sociétés de journalistes, les syndicats aussi de journalistes, le SNJ notamment, qui est le syndicat, je pense, majoritaire, hein, puisque c'est celui-là qu'on voit souvent mis en avant dès qu'il y a des attaques contre les journalistes. Donc, ils expliquent, qu'ils dénoncent ça, et finalement, ils disent c'est quand même des procédés qui avaient déjà lieu avant. Cours notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, où on a vu des journalistes faire rappeler à l'ordre, voire tabasser, voire etc. Donc ils disent, oui, il y a un gros souci de dégradation du respect de la liberté d'informer, et que ce texte ne fait qu'entériner ces dérives. Ils ont pas tort du tout. Et puis, ça a fait réagir aussi des observateurs, comme ils disent dans le texte, qui n'ont plus le droit d'être là, pendant que ça tabasse, notamment la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International. Alors, les deux ONG ont expliqué qu'elles avaient quand même été auditionnées de façon, je cite, courtoise et policée par le ministère de l'Intérieur lorsqu'ils ont préparé cette nouvelle manière de gérer les manifestations. Le truc, c'est qu'ils disent, c'est pas une concertation, hein. On a été auditionné pendant une heure et demie, et après, on n'a plus le droit de rien dire, on n'a jamais été rappelé, etc. Donc, il y a une manipulation assez habituelle de la part du gouvernement français en ce moment, c'est de faire croire qu'il y a des concertations, on invite les syndicats, enfin, les gens concernés, on les fait parler, et puis après, une fois qu'ils se sont barrés, on fait ce qu'on veut comme s'ils n'avaient pas parlé. Et on dit, oh, mais il y a eu concertation. Ils ont fait pareil, donc avec le SNJ un tout petit moment, et puis surtout avec la Ligue des droits de l'homme et l'Amnesty International, qui disent que maintenant, il faut arrêter de pousser mémé dans les orties. Alors, ils disent pas ça comme ça, bien évidemment. Mais ils se sont fait avoir, hein, comme d'habitude. Il faut donc se mobiliser. C'est ce que dit la Ligue des droits de l'homme et Amnesty International. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le classement de la liberté de la presse, la France n'est pas le pays où la presse est la plus libre. Il faut quand même voir ça. On est 34e. C'est-à-dire que dans le monde, il y a 33 pays qui sont devant la France. C'est super pas glorieux du tout pour les hommes politiques qui se glorifient d'être issus du siècle des Lumières, tout ça. On est largement pas bien classé. Mais avec ce nouveau texte, la régression va arriver, c'est quasi sûr. Voilà. Donc on est dans une droitisation des politiques, on le sait. Macron s'est droitisé sur 99% de sa politique. Et avec Darmanin, dont les idées sont très très proches de l'extrême droite, on va encore plus loin dans l'attaque des libertés civiles et là des libertés d'informer.
Oui, et on pourrait revenir juste sur le fait qu'effectivement, sur toutes ces manifestations des Gilets jaunes en particulier, on a vu pas mal de journalistes se faire tamasser, en particulier des journalistes dits indépendants ou indépendantes, ou les journalistes des médias en ligne. On n'a pas vu la presse classique, hein, vous savez, cette espèce d'opposition entre alors, il y en a qui vont dire médias dominants, médias bourgeois, médias officiels. Bon, en fait, globalement, si on prend les journaux qui se publient, hein, en papier, la radio et la télé, pour faire simple, vous avez ça. Aujourd'hui, ce groupe-là qui réagit, hein, c'est d'ailleurs les signataires de ce texte ensemble, défendons la liberté.
Voilà, qui est paru de un peu partout maintenant.
Qui est une lettre ouverte à nous. Bon, ils auraient pu mettre concitoyens, concitoyennes plutôt que concitoyens, mais ça, c'est un détail. Qui est un appel à nous, hein, à nous faire réagir. Mais c'est vrai qu'il aurait souvent reproché à une partie de ces médias presse de ne pas être réactifs quand ce sont ces indépendants ou ces médias en ligne qui se font attaquer. Il y a souvent l'idée que ces journalistes, ils sont militants, donc ils seraient pas tellement journalistes. C'est marrant parce que Valeurs Actuelles est pris comme de la presse avec des journalistes dedans. Et
alors, c'est que des militants d'extrême droite.
Voilà. Donc,
Et même si une partie des journalistes, effectivement, on respecte pas leur travail, c'était vraiment, ils font des choses qu'on partage pas. Ils font notamment de la désinformation. C'est un journaliste et donc il a le droit de venir faire un reportage, même si on l'apprécie pas, même si on empêchera un journaliste de minutes de rentrer dans les studios de Radio Canu, on va pas le tabasser et lui exploser la gueule. Quoi qu'on a envie, mais bon,
je
ça faut pas le dire.
Je pense qu'on poussera même dans notre manifestation.
Ouais.
Tu vois, quand il y a des médias qu'on aime pas, qu'on citera pas,
mais...
médias en ligne. On n'aime pas bien les voir vouloir participer à nos cortèges en étant très heureux.
Tout à fait, mais là c'est une répression d'État. Donc
non, c'est notre choix à nous de gérer nos cortèges, c'est un peu différent. Mais là effectivement, donc on a ces indépendants qui sont, ou ces médias en ligne, je préfère dire ça, quoi, qui sont visés. Mais si on reprend un petit peu, donc carte de presse, accréditation, Maroc, Algérie, Chine, Biélorussie, si vous m'avez bien suivi tout à l'heure.
C'est pareil, tu veux dire ?
Arrestation, Biélorussie, Algérie, Cameroun ?
Ouais. On a eu pas mal d'arrestations, hein, quand même, sur ces manifestations.
Donc, évidemment, mais on a quand même des journalistes qui sont restés toute une journée. S'il n'y avait pas des gens qui étaient allés devant le Comico, excusez-moi, mais dire libérez-le, s'il n'y avait pas du réseau commercial social qui permette de communiquer, combien de temps les journalistes, certains, ils seraient restés?
Il reste quand même une grosse différence, c'est que faire condamner et mettre en tôle, entôler un journaliste pour la pratique de son métier, ça n'arrive pas en France encore.
Non, mais
même
ça veut dire qu'on va quand même.
On s'approche de zones de répression fortes. On est encore bien plus démocratique.
Mais, mais tu sais qu'il faut se souvenir que grâce à Éric Ciotti, on a quand même ce
grâce à Attali.
Ouais, c'était le sarcasme, c'est pas entendu.
Ouais, si, c'est pour ça.
À cause de Éric Ciotti, grâce à, je sais pas comment faut le dire, il y avait du sarcasme. Hein. Éric Ciotti, on a cette magnifique idée, hein, de flouter les.
Ah oui, les keufs.
Les forces de l'ordre, les FDO, comme on dit en langage court. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est typique de ce qui se passe aux États-Unis. Si on n'avait pas les policiers en train de maltraiter
voire d'assassiner.
D'assassiner quelqu'un, on n'aurait pas le visage, et donc il faudrait quoi ? Qu'il y ait une enquête pour aller récupérer, donc les images de la presse, mais alors là je vous dis même pas le bazar. Donc voilà, oui, faut jamais oublier.
Filmer, ouais. Un contrôle citoyen des forces de répression, c'est important que ça existe.
Je vais rapidement parler d'un dernier point avant que tu puisses quand même enchaîner sur la répression à tous les étages.
Ça va être dans la lignée.
Je voudrais revenir sur un communiqué du CNJ dont tu parlais tout à l'heure, c'est le CNJ-CGT hein, pour être précise,
oui, tout à fait.
Qui parle du plan de soutien à la presse. Vous savez, l'argent, puisqu'il y a le 27 août dernier, le gouvernement a dévoilé, il faut toujours employer des grands mots, un plan de soutien à la filière presse hein, doté de 377 millions d'euros qui s'étale jusqu'en 2022, nous rappelle ce communiqué du CNJ-CGT. De belles idées. Donc la question que se pose le syndicat, c'est cette manne, je cite, cette manne ira-t-elle comme la majorité des actuelles aides à la presse à la poignée de Arnaud, Le Parisien, Les Échos, Xavier Niel, Le Monde, Télérama, L'Obs, Courte International, La Vie, France Senti, Paris Turf, Nice Matin, je m'y perds, voyez, La Famille Dassault, Le Figaro, TV Magazine, Le Crédit Mutuel, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès. Et aux journaux qui, comme Le Parisien ou Paris Normandie, rachetés par le groupe Procel-Lavoie, ont déjà programmé des plans de licenciement. Et à l'équipe qui veut baisser les salaires et diminuer le nombre de jours de congé de ses salariés, alors que la maison mère, le groupe Amaury, dispose de plusieurs centaines de millions d'euros de trésorerie, point d'interrogation. Effectivement, les syndicats de salariés et de journalistes n'ont pas été invités à ce grand entretien donné par le président de notre belle République, un entretien partagé avec l'Alliance de presse d'information générale. Donc déjà, si tu ne fais pas partie de la PIG, t'étais pas invité, mais enfin, je pense que ça n'intéressait que ceux dont j'ai cité le nom au-dessus. Donc, il y a un grand plan de transformation des imprimeries, nous rappelle ce communiqué du CNJ, à hauteur de 18 millions par an. Alors que la PIC prépare un plan de filière qui, sous couvert de projets de modernisation de la presse en région, je cite, financé entièrement par l'État, s'apparente en fait à un gigantesque plan de licenciement qui prévoit de faire disparaître 59% des travailleuses et travailleurs des imprimeries. C'est pas beau la vie, hein, l'argent il est bien employé, c'est ce que critique ce communiqué à juste titre, je trouve. Il paraît aussi que le gouvernement va mettre 18 millions pour aider les plus fragiles de la profession, c'est-à-dire des pigistes dont tu parlais tout à l'heure, des photojournalistes, des dessinateurs de presse. On attend. Donc.
Ouais, parce qu'en fait, quand on regarde, effectivement, comme tu disais, à qui vont cette aide à la presse, c'est essentiellement aux gros, aux méga gros, appartenant à des industries, capitales d'industrie, comme on disait avant, là. Et du coup, c'est quand même assez inégalement réparti.
Juste parce qu'ils sont moqueurs, je termine par une partie du dernier paragraphe. Le communiqué du gouvernement conclut qu'en contrepartie de ce soutien conséquent, l'État attend de la part des éditeurs de presse qu'ils se montrent exemplaires en matière de transition écologique, de parité et diversité, mais aussi de lutte contre la précarité des professions les plus fragiles du secteur, pigistes, photojournalistes, correspondants locaux de presse, vendeurs colporteurs, etc. Si on comprend bien, la seule condition exigée, c'est que les patrons de presse respectent la loi.
Oui, c'est ça. C'est pas mal.
Voilà pour ce petit communiqué.
Mais tu sais, l'État respectant déjà pas la loi dans ces domaines-là, hein. L'égalité homme-femme dans la fonction publique, on pourra en parler. Nous poursuivons avec ma rubrique La répression dans tous les étages. Et on va commencer par sept personnes, dont plusieurs syndicalistes enseignants, ont été convoquées au commissariat de Toulouse. Et cinq d'entre elles ont été. Alors, cinq d'entre elles, c'était pour être placées en garde à vue. Les deux autres pourraient être entendues lors d'une audition dite libre, qui finalement s'est pas révélé si libre que ça, puisqu'ils sont restés, ils ont été eux aussi placés en garde à vue. Donc sept méchants terroristes sont placés en garde à vue. Alors, quand on place quelqu'un en garde à vue, c'est quelqu'un qui est soit très dangereux, soit quelqu'un qui risque de se barrer et, pour ne pas affronter la justice. Donc là, on a sept personnes, dont des syndicalistes enseignants, qui sont considérés comme voilà des terroristes, des personnes dangereuses, des criminels. Bon. Alors, on va essayer de voir ce qu'ils ont fait. Alors, l'histoire remonte à février de cette année, lorsque plusieurs membres du parti d'extrême droite, le Rassemblement National, dont le candidat à l'élection municipale de Toulouse, hein, parce que je vous rappelle, on est à Toulouse, qui ont porté plainte, donc ces membres dont le candidat, après avoir vu une de leurs séances de tractage perturbée. Bravo en tout cas à ceux et celles et ceux qui ont perturbé. J'ai rien dit. À l'époque, donc le candidat d'extrême droite avait dénoncé la perturbation de cette fameuse séance de tractage sur un marché à Toulouse. Il avait même dit, dans un communiqué, vouloir porter plainte, ce qu'il donc il a fait, contre des milices antifa pour violence aggravée et entrave concertée à l'exercice de la liberté d'expression. Il évoquait des crachats et même des coups de bâton. Pour montrer ça, il avait publié une vidéo qui permettait de ne rien voir, parce que la vidéo montrait rien, aucune agression, rien. Donc ça, c'est... Voilà, il a dit, regardez, j'ai une vidéo, en se disant, les gens vont pas la regarder, la vidéo, ils vont me croire sur parole, et en fait, il y avait rien dans la vidéo. Alors, ce qui questionne, c'est qu'un petit facho comme ça, dont on a perturbé, moi je pense à juste titre, hein, la diffusion de ses idées nauséabondes pendant la campagne électorale, dépose plainte et qu'on arrête et qu'on mette en garde à vue des personnes suspectées d'avoir embêté ce candidat d'extrême droite, c'est que ça paraît quand même un petit peu louche, moi je trouve. C'est un petit peu limite. Hein. Du coup, ça fait réagir pas mal d'organisations syndicales, des organisations politiques, des assos. Bon, il y a la CGT Éducation, la FSU, le NPA, ACT UP, enfin, plein de gens. On dit que ça paraissait quand même un poil abusif comme convocation. En fait, ils se servent de ce que permet la loi pour essayer de s'acharner contre ces militants. Mais la question qui se pose, mais quel est le but? Pourquoi ils font ça? Je veux dire, le RN est quand même pas au pouvoir actuellement, hein, même si ses idées le sont en partie. Pourquoi fait ça? Pourquoi finalement la justice qui reste le bras armé, hein, de l'État, donc pourquoi La République En Marche, qui est le parti au pouvoir, qui n'est pas allié au FN, attaque ces militants anti, pas allié au RN, attaque ces militants anti-RN. Ben c'est qu'en fait, dès que c'est possible, dès qu'une action syndicale a lieu, quelle qu'elle soit, la République En Marche fait tout pour attaquer ces syndicalistes et militants. Donc même si ça attaque un de ses ennemis, eh ben ils attaquent plutôt, parce que c'est plus important d'attaquer les militants et les syndicalistes que finalement de lutter réellement contre les idées nauséabondes de l'extrême droite. Et on en est là aujourd'hui. Et alors, pour faire venir dans cette affaire, il y a une double affaire dedans, en fait. Parce que les petits fachos qui accusent tout ça de violence et de ça, dont on n'a aucune preuve, il y a des témoignages qui vont dans l'autre sens. Et notamment, une colistière, une militante de la liste de Nadia Pelfig, donc qui était une sorte de candidate de la gauche unie à la mairie de Toulouse, qui, elle, contredit totalement la posture victimaire de Quentin Lamotte, le candidat pour l'extrême droite. Elle dit même qu'il y a eu des insultes racistes proférées contre une de ses colistières d'origine maghrébine et contre une des militantes qui était noire, qui était avec elle. Donc, d'après elle, c'est l'inverse qui s'est passé. Voilà. Et ce qui paraît relativement probable aussi. Donc voilà, on en est aujourd'hui. L'État, finalement, à travers sa justice, vient au secours et soutient le Rassemblement National à travers notamment cette action à Toulouse. C'est juste à vomir. Hein, tout ça. Et puis on continue. Toulouse, ça a l'air d'être une ville géniale. En fait, avant, on avait une image plutôt positive de Toulouse, mais là, ça a l'air compliqué. Il y a 7 personnes qui ont été condamnées à 2 mois de prison ferme. Bon, on se dit, voilà, 2 mois de prison ferme, c'est quand même lourd. Ils ont dû faire un truc grave, attaquer des gens, taper, des violences conjugales, tout ça. Alors, en fait, dans les violences conjugales, on prend pas toujours de la prison ferme, mais eux, ils ont pris. Alors, bon, ces dangereux terroristes, qu'avaient-ils fait? Bon, ils avaient posé des tags, des affiches et des pochoirs. Ils sont comme des tags, des pochoirs. Alors on se dit, mais attends, mais comment c'est possible? Eh ben si, c'est possible. Donc ils ont été arrêtés par la police, ces 7 dangereux criminels des murs, qui avaient sali les murs. Donc c'est la ville de Toulouse et 2 syndics de copropriété qui s'étaient portés partie civile. Les militants, militantes, tagueurs, tagueuses ont refusé de répondre aux questions. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ça. Et ils ont pris donc 2 mois ferme pour de simples tags. C'est intéressant. Du coup, on se demande si quand même à Toulouse, l'extrême droite sera pas au pouvoir quand même, au moins à travers la justice. Hein. Ça, c'est une question qu'on se pose. Alors, je vais vous citer quelques tags. Certains sont nuls, certains sont plutôt sympathiques. Je cite, c'est les tags, c'est pas moi. Le feu tue les virus, brûle ton comico. Bon. Balance ton smartphone, pas ton voisin. Sympa ça. Ne relevons pas l'économie, détruisons-la. Avec ou sans masque, ce monde est irresponsable. Détruisons ce qui nous étouffe. Crève les boucaves. Bon, ça c'était un peu ridicule. Squatte ton préfet. Plutôt mourir libre que vivre confiné. La police tue, confinons-la. C'était pas mal. Accab, le pire des virus. C'est l'autorité, le pire des, alors, accable, le pire des virus, c'est l'autorité. Enfin, tu as des trucs d'anarchistes sympathico-drôles, ou des fois ratés. Voilà, ils ont pris 2 ans de tôle. Tout va bien. Moi, on n'est pas en Chine.
J'ai un peu mon préféré, mais je ne pourrais pas le dire à l'antenne.
C'est quoi ton préféré?
Non, je ne dirai pas, je te dirai après.
On n'a pas le droit de dire qu'on a apprécié. Bon, je parle du Rwanda un peu rapidement.
Fait, parce que moi, j'ai après 2 soutiens quand même que j'aimerais pouvoir
oui,
amener.
Mais on va déborder, a priori, on n'a personne derrière nous.
Mais quand même, j'y tiens.
Oui, je vais parler, c'est un truc important là, au Rwanda, parce que le Rwanda est soutenu par pas mal de pays occidentaux, et c'est pas très glorieux. On va parler de Paul Rusesabagina, je vais essayer de le dire sans trop m'arrêter sur son nom. Il est inculpé de terrorisme et de meurtre par la justice rwandaise. On se dit, ils ont arrêté eux aussi un dangereux terroriste. En fait, il est super célèbre, ce Paul Rusesabagina, grâce à Hollywood, parce qu'il y a un film qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Hôtel Rwanda, qui parlait de son personnage. Alors, lui joue pas dans le film, hein, c'est son personnage qui est dans le film, qui raconte son histoire quand il a sauvé des centaines de Rwandais pendant le génocide rwandais. Donc voilà, un truc un peu glorieux, c'est un héros, tout ça. Et il est donc célèbre pour ça. A priori, il est moins célèbre au Rwanda pour ça. En tout cas, il est moins apprécié par le régime du charismatique et moins charismatique aujourd'hui et plutôt autoritaire de Paul Kagame. Donc voilà, le Rwanda est sorti du génocide complètement défoncé, détruit. Enfin, le pire semblait plus à rien. En dehors des massacres humains, tout était désolé. La structure sociale n'existait plus. Paul Kagame, notamment, avec d'autres gens, ont remonté le pays. Et c'est devenu le pays à la mode sur le continent africain, peut-être pas le seul, mais voilà, un pays qui se développe, ultra sûr aujourd'hui, enfin, voilà, tout le monde vous hégémonie, c'est le pays génial d'Afrique, tout ça, tout est génial. Bon, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, à travers ce cas de Rusesabagina. Donc lui, il n'est pas resté très longtemps après la fin du génocide. Il a commencé à critiquer le gouvernement et il a préféré s'exiler en 96. Il est parti en Belgique où il est devenu citoyen belge. Et ensuite, il a émigré aux États-Unis. Il a une carte verte pour travailler aux États-Unis. Il a continué à critiquer beaucoup le gouvernement rwandais, et il s'est aussi rapproché de mouvements d'opposition de plus en plus radicaux, voire de moins en moins fréquentables. Alors, les griefs de ce personnage, ce héros déchu, dirons-nous, portent principalement sur l'incapacité du gouvernement rwandais à rendre compte de ses propres atrocités, notamment à la fin du génocide, et puis sur, j'imagine, sur la politique autoritaire de l'actuel président. Donc voilà. Alors le problème, c'est que Rusesabagina est aussi considéré, d'après les autorités rwandaises, comme membre, voire leader du MRCD Umbumwe FLN. Donc c'est un groupe armé qui est basé dans l'est du Congo. Je ne sais pas si c'est vrai, mais la fondation Hôtel Rwanda Rusesabagina Fondation est accusée d'avoir récolté de l'argent pour financer les activités de ce groupe qui est considéré comme terroriste. Le groupe notamment qui s'appelle FLN, qui serait le bras armé du MRCD. Voilà. Alors des accusations pas forcément étayées, mais le fait que Rusesabagina ait fréquenté quand même des gens pas toujours fréquentables, ça joue contre lui. Mais dans tout ça se rajoute l'attitude ultra-agressive, ultra-répressive de Kagame. Alors je vais donner quelques exemples. Il y a Victoire Ingabire qui a été enfermée en 2012 parce qu'elle avait créé, cette dame, son propre parti politique et critiquait le gouvernement. Il y a Faustine Nyamwaza qui était un ancien lieutenant de Kagame, qui s'est retourné contre Kagame et qui s'est barré en Afrique du Sud parce qu'il a eu peur et qui a échappé à une tentative d'assassinat en Afrique du Sud. Alors dans la même lignée, vous avez Patrick Karegeya. Alors lui, c'est pareil, c'est l'ancien chef des renseignements de Kagame. À un moment, ça marchait plus, il était plus en accord avec Paul Kagame. Il est parti en Afrique du Sud et là, il a été lui carrément assassiné. Et ils ne l'ont pas raté. Et la justice, enfin les procureurs sud-africains soupçonnent un commando lié au gouvernement rwandais. Donc le Kagame semble non seulement être répressif dans son pays, mais carrément faire assassiner ses opposants, même quand ils sont à l'étranger. Et pour terminer, Roussel Sabagida, il a été arrêté de manière complètement incroyable. C'est digne d'un scénario de James Bond ou digne du Mossad. Hein. Le Mossad qui avait fait ça avec la personne qui avait révélé que la bombe atomique était que Israël avait fabriqué la bombe atomique. Mais ils ont fait un peu comme le Mossad pour ce technicien qui avait donné ces infos. Ils sont allés le chercher à l'étranger et il était aux Émirats Arabes Unis. Et ils sont arrivés à l'enlever et à le ramener, je ne sais pas comment, avec un jet privé, puisque au Rwanda. Sa famille dit qu'il n'est pas rentré au Rwanda, il ne voulait pas revenir au Rwanda, ils l'ont ramené de force. Alors, les Émirats Arabes Unis disent qu'ils étaient au courant de rien, par contre, ils confirment qu'effectivement, il a embarqué dans un jet privé pour se rendre à Kigali. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Au niveau international, personne ne bouge vraiment pour défendre cet opposant, Roussel Sabagina. Pourquoi ? Parce que Paul Kagame est très proche de beaucoup d'hommes politiques et de dirigeants des deux pays, notamment occidentaux et un peu et d'autres aussi. C'est un pays à la mode, tout le monde souligne l'efficacité de sa politique et du coup le côté répressif, tout le monde ferme les yeux. Et on en est là aujourd'hui dans ce Rwanda qui tend vers petit à petit un régime autoritaire et on a peur de la bascule du côté de la dictature. On le verra si jamais il se présente pour les prochaines élections, puisqu'il aura, Paul Kagame n'a pas le droit de se présenter normalement pour les prochaines élections, il veut le faire quand même. Voilà, le pays aura définitivement basculé dans la dictature.
Alors, nous poursuivons, même s'il est 20h passé. Je voulais amener mon soutien à deux médias différents, indépendants. Le premier est un journal de Marseille que l'on aime bien.
On avait rencontré, ouais.
Ouais, qui s'appelle donc Le Ravi, journal d'actu satirique, journal papier. Hein, vous y savez sur internet, mais
avec,
sinon.
Avec des belles enquêtes hein, sur Marseille. Hein,
c'est vraiment chouette. Ouais. Il nous manque ça à Lyon, c'est-à-dire un journal papier qui est cette professionnel hein, qui a ce travail.
Avec des vrais journalistes. Il y a des vraies enquêtes qui sont faites. C'est très sérieux sur journal. Il galère depuis
différent.
Des années hein, quand même.
Ouais. Et donc, il faudrait qu'on amène notre soutien. Alors, je vous le dis tout de suite, vous pouvez faire une petite participer à la pétition, vous abonner ou faire un don. Hein, tout simplement. Pourquoi c'est important ? Puisque le Ravi fait face à Odelvar, qui est un organisme parapublic en charge des centres de loisirs, c'est dirigé par un élu LR, et les papiers du Ravi n'ont pas du tout plus à cette direction. Alors, il y avait d'abord eu un procès sur l'enquête de l'Odel sous les ponts. Là, le Ravi a été relaxé, mais il y a toujours un autre article qui pose problème qui s'appelle « Les élus d'abord, les enfants d'après ». Alors, il y a eu un premier rendez-vous en instance au TGI de Draguignan. Là, le Ravi a perdu. Il y a eu ensuite un passage devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Là, la journaliste a été relaxée. Les sommes ont été largement abaissées, puisque Odelvar demande quand même 32 000 balles. Hein. 32 000 balles, un journal comme le Ravi...
Ouais, c'est un des moyens de se fermer la presse, hein, comme ça, c'est de faire des procès, ça coûte cher les procès, et un petit journal comme ça a difficilement les moyens d'aller jusqu'au bout de la procédure.
Là, ouais, il y a déjà 10 000 euros de frais, hein, c'est ce qu'ils annoncent dans leur communiqué, donc oui, c'est beaucoup d'argent hein, pour un journal local, alternatif, indépendant. Donc là, il y a un rendez-vous devant la Cour de cassation, ça va se passer à la capitale, à Paris, le 13 octobre prochain, si je dis à la capitale, c'est important, en fait, que ça se passe à Paris, parce que pour le Ravi, ça va se passer devant une juridiction qui est habituée à traiter le droit de la presse, ouais. Ce qui va changer de ses pseudo-cours.
Oui, et puis surtout qu'il s'éloigne des potentats locaux, avec toutes les amitiés qu'on peut avoir dans les notables, notamment, et effectivement, on peut espérer une justice un peu plus juste.
Ouais. Donc voilà, il faut soutenir hein, le Ravi, parce qu'on a besoin de ce genre de presse.
Oui, on est jaloux quand on n'est pas ça à Lyon, hein, quand même.
Ouais, mais il y a plein de gens maintenant qui se mettent à signer, hein, parce que il y a par exemple Mathieu Mollard de Street Press, aussi il doit avoir pas mal de soucis quand même. Je pense qu'il y a des flics, ils aimeraient pas être assis à côté des gens de Street Press. Enfin, toi, ça doit pas bien leur plaire en ce moment. On retrouve après des gens hein, du milieu de la musique. Hein. Il y a Massilia, Ayam avec Imhotep par exemple. On retrouve évidemment Guédi Guian et Ascaride. Hein,
Tu cites les milieux de gauche marseillais là.
Oui, il y a Alain Damasio.
Il est lyonnais.
Oui, mais voilà, c'était pour te contredire. Je sais pas, tu me demandes, je te dis.
Non, mais c'est ça, il faut que. Localement, le journal est connu. Ils ont des soutiens. Il faut des soutiens locaux. Il faut qu'effectivement, les soutiens se généralisent un peu partout pour que ça ait un vrai poids, quoi.
Et puis un autre soutien qu'on fait annuellement et que nous pouvons faire peut-être trimestriellement, je ne sais pas, c'est mon soutien à Acrimed qui fait un appel à don hein, qui s'appelle Pas d'argent magique pour Acrimed, j'aime beaucoup. Rappelons que Acrimed fait de la critique des médias, qu'il y a du travail qui est fait par des gens, qu'il faut soutenir l'association et qu'Acrimed aussi est attaqué par un certain nombre de représentants et représentantes parisiens et parisiennes qui n'aiment pas bien qu'on critique. Hein, la presse, qu'on lui mette le nez dans son caca. Et Acrimed fait ça, il y a de très très bons papiers, enfin moi j'aime bien, je sais pas vous, mais moi j'aime bien lire. Il y a un très bon papier, par exemple je fais ça de tête, parce que je l'avais noté sur mon papier, tout ça, pour vous dire les vrais titres, mais je l'ai perdu. Il y a un très bon papier, par exemple, sur la presse dite people et puis les Macron, mais aussi comment on dédiabolise dans cette presse comme Paris Match, le Rassemblement National, comment on fait des jolies photos, comment on trouve ces représentantes du RN, anciennement Front National, au restaurant. Et puis on parle de leurs habits et puis de leurs loisirs. Donc tout ce travail-là, il est hyper intéressant sur Acrimed. Il y a aussi toute la manière dont, évidemment, aujourd'hui, on se retrouve avec soit des polémistes, soit des militants qui ont envahi les studios de télévision en particulier, mais aussi radiophoniques, et qui s'installent dans la presse. Des gens qui sont d'extrême droite, qui sont extrêmement violents et qui viennent agiter leur haine quand même sur des plateaux. Et si certains sont des polémistes qui sont prêts à dire n'importe quoi pour avoir un chèque à la fin du mois, d'autres sont quand même de grosses
ordures,
cochonneries. Voilà, et Acrimed participe aussi à mettre en avant et à montrer les choses et à démontrer par ses papiers, que ça soit la version papier et en ligne, les travers de notre presse et les choses assez graves. Donc voilà, je trouve que la critique des médias, elle est à développer et elle est à soutenir. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des petits dons. C'est quoi les petits machins, faut les grands ruisseaux? Non, c'est pas ça.
C'est ça.
Bah non, mais quand on fait, on fait avec des petits dons, et puis après, du coup, ça va mieux. Alors là, évidemment, il faut soutenir deux trucs. Mais il y a l'urgence, leur avis, parce qu'il faut les aider, et puis Acrimed tout au long de la vie, quoi.
Voilà.
On va donc vous laisser avec les bandes de continu de Radio Canu. On espère se retrouver ensemble la semaine prochaine. On vous rappelle qu'il y a des... Non, Laurent est en train de tortiller du nez pour savoir s'il sera là. Ouh, nous avons un verra, c'est pas bon ça. Sinon, ben voilà, il y a d'autres émissions, d'autres Canu Info, et vous pouvez écouter tout ça, soit en direct, soit retrouver tout ça sur les blogs de Radio Canu.
Bye bye.
Ciao.